Arpenter les lisières. Une pièce sonore en quatre parties de Till Ruskens. Première partie, précédée d'une petite présentation que j'ai écrite et que je vais vous lire. Voici réunies les voix de quatre amis que j'aime écouter. Chacune m'a confié quelque chose de sa recherche intime d'habiter le monde, d'y retisser des fils oubliés, d'y frayer des chemins. Laure Maternati décrit le lieu secret de sa désertion. Marie Moreau raconte les méandres qui l'ont menée d'une errance solitaire à une révolte partagée. Alejandra Riera évoque son alliance avec la silencieuse résistance des plantes dans la ville. Marie Boots, depuis les cachettes de l'enfance, retrace une quête de conscience et de liberté. Quatre voies pour esquisser des lignes de fuite en zigzag face à l'insoutenable. Voilà. Arpenter les lisières. Première partie. Terrain vague. Entretien avec Laure Maternati.
T'as envie de parler d'autre chose que du terrain vague ?
Non, on peut partir de là. Ben, cet endroit, c'est un envers. Donc il y a eu, comment dire, quelque chose que je souhaitais, c'est-à-dire de dérailler. C'est produit simplement par un lieu qui m'a arrêtée. Chose que j'avais du mal à faire. Des contraintes, des objectifs, des attentes, des commandes. Ce travail de graphisme, tout le temps en train de faire des choses, de produire. Et c'est la rencontre avec un vide qui m'a arrêté. Un vide de construction. En sortant du bus, je tombais en arrêt. Enfin, cet endroit-là m'a mis en suspension. M'a interloqué, peut-être. Et cette rencontre aussi avec Christine. Et je ne me rappelle plus même comment elle s'est faite, cette rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je me suis retrouvée un peu happée par son histoire, hein, de chercheuse, hein, fonctionnaire. Avait son bureau qui était un Algeco qu'elle s'était faite livrer et qui était posé comme ça dans l'ancienne cour de l'école de Saint-André. Dans ce coin de la ville assez... un bouleversement, puisqu'il y avait la construction juste auparavant de Grand Littoral, donc ce qui était vendu comme étant le plus grand supermarché d'Europe, et qui a été construit sur des anciennes carrières d'argile, l'argile servant... à fabriquer les tuiles, qui était donc l'activité industrielle. Il y a eu jusqu'à 26 tuileries dans le bassin de Séon, donc Saint-André, Saint-Henri et l'Estac. Et voilà, Christine était là et essayait de voir comment sauvegarder, protéger. Bon, il y avait la question de la mémoire, mais... de la transmission surtout. Chercher des applications aux recommandations du Conseil de l'Europe en matière de patrimoine intégré. Ben, si ces recommandations étaient légiférées par un État, Les conservateurs du patrimoine pourraient dire là, ton rond-point, là, tu vas le faire ailleurs. Parce que là, il y a un passage pour les chèvres. Et donc, si tu mets une autoroute, c'est plus possible. Et quand j'allais, donc, je peux dire travailler, en fait, avec Christine, c'est-à-dire parler. À ce moment-là, j'habitais encore en plein centre-ville et je prenais le bus 35 et puis je descendais à un arrêt qui s'appelle Pas du Fan. Et cet arrêt, enfin, c'est le nom de l'arrêt qui m'a parlé, qui a résonné d'abord, m'identifiant en moi à un fan. Ça s'appelle comme ça l'arrêt parce que c'est juste à l'endroit où il y a la traverse du pas du fan qui vadrouille comme ça jusqu'au centre du village de Saint-André, mais en passant par le côté. Une espèce de petit chemin tout tordu. Et il se trouve aussi que donc, descendant du bus, à ce moment-là, bah, il y avait un terrain vague. Assez rectangulaire, comme ça. Un espace tout vide. Et puis après, le terrain vague, des petites, un lotissement de 2-3 étages qui avait été construit là. Je passais sous le grillage pour aller jusqu'au centre de Saint-André. Et puis je me suis arrêtée de plus en plus souvent et des fois j'oubliais même d'aller parler avec Christine. Je restais là. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me... C'était... comme un rêve, en fait. Je restais sur ce terrain vague, mais qui n'était pas très caché de la route, où il n'y avait pas tellement de recoins. Si, il y avait un petit recoin avec un figuier, un reste de maison, et où il y avait souvent des petites couvertures que les enfants venaient mettre là et ils devaient jouer. Mais je ne voyais jamais les enfants.
Tu voyais d'autres personnes ?
Sur celui-là, non. J'allais souvent en début d'après-midi, donc c'était peut-être des heures où il n'y avait pas de fréquentation, quoi, en dehors de la mienne.
Et il y avait quoi ?
Quoi ? Sur ce terrain vague ? Mmh. Rien. Il n'y avait rien, il y avait des herbes folles. Ce reste d'anciennes bâtisses ou... qui devait être peut-être le bureau d'entrée, parce que, ça j'ai appris après, que tous ces terrains vagues autour de Saint-André, Saint-Henri aussi, jusqu'à l'Estac, bah, c'était l'emplacement des anciennes tuileries, qui avaient été rasées. Il n'y avait plus rien, quoi. Effectivement, c'était bizarre, parce qu'il n'y avait pas... On voyait bien que la terre... avait été recouverte à un moment, il restait des bouts de ciment, de pierre. Et voilà.
Et tu t'asseyais par terre au milieu ?
Souvent, je restais debout. Et je marchais un peu comme ça, comme les chats, sans vraiment savoir. Pourquoi je faisais ça, mais je sais pas, ça me plaisait de divaguer en fait. Et je peux dire que à ce moment-là, il y a quelque chose de moi qui a toujours été là, même enfant justement, qui est venu se reprendre son droit d'évidence, quoi. Comment dire, une révélation, quoi. Je sais pas, peut-être comme quand Jeanne d'Arc gardait ses moutons et puis qu'elle a entendu des voix, quoi.
T'entendais quoi?
Ben, j'entendais rien. J'entendais juste ce qui était. C'est-à-dire le bruit des branches et des oiseaux. Et j'entendais plus les ordres intégrés. Et il faut que tu ailles faire ci, et il faut que tu passes par là, et si tu passes par là, ça va aller plus vite. Et oui, tu as rendez-vous à telle heure. Et il faut que je pense à appeler un tel. Voilà. Sauf que ce terrain vague, très peu de temps après, il y a une entreprise qui l'a sans doute acheté, qu'il avait déjà pour y stocker des bulldozers. Le jour où je suis descendue, j'ai vu mon petit pas du fin rempli de grosses machines. J'ai trouvé ça horrible. Mais en même temps, il y avait quelque chose de drôle là-dedans. Du coup, je me suis mis à arpenter tout le bassin de Séon. Et il y en avait beaucoup de terrains vagues, de toute taille, des traits fermés qu'on ne voyait pas. Mais celui où je me suis fixé, en tout cas, il était, puisque maintenant, lui aussi a disparu. Il était en plein cœur de Saint-André, très très proche de l'église, un peu en surplomb comme ça, et lui, il était vraiment beau, quoi. Très ouvert et en même temps protégé, qu'une petite rue qui arrivait comme ça. Il est au bord du cimetière aussi. Là, on voyait vraiment la forme de l'ancienne tuilerie Ré, R-E-Y. Et surtout, on voyait la mer, les collines. Il y a une espèce de vue comme ça à 360 degrés. Et il y avait vraiment possibilité de se mettre dans des petits coins. Une autre végétation aussi, plus diversifiée que sur le pas du fond, qui était un peu une steppe rase, comme ça. Et là, par contre, il y avait beaucoup plus de gens sur ce terrain vague. Principalement des retraités. C'est comme ça qu'ils se présentaient. Qui avaient été d'ailleurs employés des tuileries. Ils avaient installé un bidon qui faisait bras zéro l'hiver. Ils avaient taillé un figuier pour faire une tonnelle pour l'été. Et puis il y avait quelques chaises posées, des ronces qui abritaient du vent, du mistral, du nord.
Passer le temps avec eux.
Bah au début on se parlait pas. Moi j'avais pas envie de leur parler. J'avais juste envie d'être là, et comme eux ils étaient là, et puis pas spécialement de désir de leur poser des questions. Voilà, et puis au fur et à mesure on s'est rapprochés, je crois. Un jour, il y en a un qui est venu me dire mais qu'est-ce que tu fais là, toi, tout le temps? T'as pas de chien? T'es seul? T'as l'air d'avoir une maison? Voilà. Et c'est comme ça qu'après, on peut dire oh, salut l'artiste. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Et je me disais souvent, en voyant ces hommes à la retraite, que s'ils n'avaient pas le terrain vague, ils seraient peut-être malades. Tu vois, parce qu'ils n'auraient pas sous leurs yeux la beauté d'une chose qui est rendue à l'inutilité. sers plus à rien, tu fais plus rien. Voilà, je me disais que cet espace faisait du bien, parce que moi aussi, j'ai le sentiment d'aller vers l'inutile. Je prenais appui sur ce lieu pour moi-même d'abord dysfonctionner et ne pas me ruer vers une nouvelle identité que j'aurais projetée, quoi. Donc c'était un sas, une sortie de route. Et c'était vraiment curieux, les terrains vagues, en fait, dans les villes. Il n'y a plus rien qui fait autorité. Tu vois. Certes, il y a encore des propriétaires, mais ils ne sont souvent pas là. Et puis, si c'est comme ça, c'est qu'il y a de la spéculation. Et en attendant, il y a une espèce d'usage. Il y a toutes sortes d'usages. Et du coup, des négociations. Tout est légitime et rien ne l'est, en fait. Et ça, ça m'a vraiment passionnée, quoi, de plonger dans l'absurdité, en fait. De venir là, et je crois vraiment que j'y suis restée pendant 2 ans. J'allais au moins 2-3 après-midi par semaine, quoi. Et ça a été vraiment un gros lieu de fabrication, comme ça, de questions philosophiques, de débats internes sur l'utilité, le vide, le plein. La fonction, le cadre, la société, tout y est passé, quoi. C'est tout ça sur des chaises en formica délabrées. Moi je me sentais un peu comme Saint-Louis au pied de son chêne, sauf que là j'étais sous une tonnelle de figuier. Je jouissais d'un énorme luxe et d'une énorme victoire sur moi-même. Et que pour moi, ça a été le lieu de ma révolution.
Et en quoi l'inutile est pour toi une puissance révolutionnaire ?
Ouais, c'est arrêter, quoi. Arrêter. Cet emballement, cette oppression de l'action, de la volonté, de tout, des codes, de l'héroïsme, de tout ce qui nous emmerde et qui nous fait plus chier, qui nous constipe, qui nous empêche de faire du caca. Et bon, maintenant, mais tant mieux. Il n'y a plus rien à faire. Hop là. Nous voilà désœuvrés, quoi. Révolutionnaire parce que j'ai eu un rapport au travail très conflictuel, très tendu en moi, venant d'une famille du lumpen prolétariat, quoi. Les petites mains, les journaliers. Les ceux qu'on pouvait embaucher, débaucher, comme ça. Sauf que ma mère, génération de l'après-guerre, des Trente Glorieuses, qui, elle, s'en était sortie du lumpen prolétariat, et qui était secrétaire de direction, et qui avait réussi, et que ça avait recouvert le passé très très proche de l'esclavage, en fait. Ma grand-mère, elle est restée 50 ans concierge sans aucune rémunération, quand même. Avec juste le droit de pouvoir habiter la petite maison où ils étaient parfois 15 dans une deux pièces, quoi, tu vois. Donc, une espèce de double comme ça, avec le modèle de ma mère, en plus, quand même les premières femmes à gagner leur vie, l'émancipation par le travail, la liberté par le travail, la fierté de créer son truc, l'ascension. Et en même temps, toujours un double, quoi, l'ombre de ça, quoi, l'ombre au tableau des 30 Glorieuses. Qui était tapis comme ça, et puis qui est sorti à ce moment où j'ai tout remis en question, quoi. En fait, le terrain vague, c'est un atelier. Pendant 2 ans, j'ai eu un atelier. J'ai été à l'atelier. Voilà.
Tu as posé des gestes particuliers dans cet endroit ?
Bah, ouais, enfin, il y avait les gestes de d'inviter des amis à venir visiter mon atelier et à les mettre dans cette position, disposition à accueillir le temps pour rien, la gratuité, l'être là. Le regarder, entendre le couloir aérien, les autoroutes, les trains, voilà, toute cette rumeur de la vitesse du transport utile. Et en même temps, les oiseaux, le clocher de l'église de Saint-André, les chats qui marche dans les feuilles, à des distances différentes, du près, proche, lointain. Voilà, donc il y avait beaucoup aussi à percevoir. Je suis allée acheter une espèce d'album photo. J'ai commencé par y mettre quelques photos que j'avais faites du terrain vague. Et j'avais écrit un petit papier où j'ai invité les gens à déposer dans cet atlas ce qui leur venait quand ils étaient sur le terrain vague, en disant, ben voilà, ça c'est l'atlas. Ce qu'on voit de là, ce qu'on voit de ce point de vue, et qu'est-ce qu'on voit du terrain vague. Et c'était donc déposé à la bibliothèque Saint-André, avec des rabanes, pouvoir s'allonger dans l'herbe. Les rabanes, c'est ces nattes qu'on achète pour aller à la plage. De petits tabourets aussi pliables. Il y a quasiment personne qui s'est emparé de la proposition. Il y a eu une ou deux personnes qui ont joué le jeu. Et puis le reste, c'est des amis qui... Chacun y a mis quelques photos, des notes, quelques petites pensées. Mmh. Voilà. J'ai proposé aussi des siestes. Parce que justement, prise dans cette question du patrimoine culturel, et oui, à m'apercevoir au fur et à mesure que des choses d'une culture peuvent être en danger. Des députés grecs avaient fait tout un scandale à Bruxelles pour maintenir la sieste en Grèce. Parce que dans les entreprises, les horaires qui étaient appliqués, c'était les horaires de toute l'Europe, tu vois. Donc, sans tenir compte de rien, bien sûr, des conditions climatiques, des corps, quoi. Moi, dans cette culture-là dans laquelle je suis tombée, j'ai vu beaucoup de choses en danger. Par exemple, parler avec la main qui bouge, Un jour, on peut te taper dessus parce que tu fais ça. Et bien évidemment, on aura pour autant, c'est la chose que j'ai pas envie qu'elle disparaisse. Ça me coupe vraiment le souffle, la ponctualité, quoi. Il y a quelque chose qui m'enferme, en fait, qui me fait pas du bien. Et sera pour autant, à la lumière, cette chose infiniment bonne qu'est la sieste, c'est-à-dire, c'est dans la journée, t'entends quand même qu'il y a des choses qui continuent, plus ou moins, qui sont un peu assourdies, donc tu te laisses aller à ça, ça ne dure jamais très longtemps, mais c'est tellement bon pour le corps et l'esprit. La question de l'abandon, le terrain vague, c'est aussi la question de l'abandon. Tu vois, et c'est là aussi où ça rejoint la question politique. Donc c'était une invitation aussi à venir faire des siestes.
T'as voulu le pérenniser tout ça?
Ben oui, quand même, au bout d'un moment, ce qui m'est venu, c'est l'importance vitale. Je craignais que cet espace soit rasé. Je me suis dit, en fait, je vais proposer une institution du public, de la République, d'acheter ce terrain vague pour le laisser être terrain vague. Voilà. Ni plus ni moins. Ça a été le projet que j'ai pas du tout eu la force de réaliser.
T'as jamais fait de dossier, en vrai?
Non. Je savais pas comment prendre ce truc, en fait. Parce que j'étais pas dans le sérail de l'art contemporain, et d'un coup, je pense à un projet, paf, énorme. À un moment, on a même réfléchi à faire un collectif d'acheteurs de ce terrain vague, faire une souscription. Mais je sais pas, ça m'allait pas, quoi. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui, pour moi, devait engager la responsabilité publique institutionnelle à l'égard du vide.
Est-ce que ce vide-là, toi, t'as envie qu'il s'étende?
Mais oui, j'aurais envie qu'il y ait plus de terrain vague dans les relations, par exemple. Dans la sexualité, dans le genre, dans le... Enfin, le queer, par exemple, c'est un terrain vague dans le genre. Donc oui, le monde dans lequel j'ai envie de vivre est un monde improvisé. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire le lendemain, quoi. Pas pour les choses strictement qui sont de l'ordre du besoin. Bien sûr qu'il y a des actes, on est obligé de les faire, de les tenir, mais ça, je pense que ça peut se limiter à 2 heures par jour, quoi. Et puis le reste, c'est de l'invention. C'est du désir.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté d'aller à ce terrain?
Je crois que j'arrivais un peu au bout de ce que je pouvais vivre là, sur ce terrain vague. Et j'y suis de moins en moins allée. Et puis quand j'ai voulu y retourner un jour, il y avait des bétonneuses et puis ils ont commencé à construire une petite résidence. Voilà, c'était fini.